Bienvenue sur Atypique, le podcast où nous explorons les parcours uniques de celles et ceux qui ont bravé les tempêtes pour devenir accompagnants. Des reconversions audacieuses aux défis surmontés, Atypique est fait pour inspirer, apprendre et évoluer ensemble. Dans cet épisode 4 d'Atypique, je reçois Bérangère Tabourin, formatrice, praticienne en hypnose et comédienne passionnée. Bérangère nous partage ses motivations, ses épreuves qu'elle a dû traverser et comment, malgré les peurs, elle a pu évoluer sur son chemin. Nous parlons aussi de l'équilibre délicat entre la vie d'accompagnant et la vie personnelle, notamment les relations familiales. Nous parlons aussi de son parcours des... Nous abordons aussi son parcours d'écriture, les défis à dépasser, ses propres limites, de la nuance entre acceptation de soi, compassion et quête de sa propre voie en thérapie. Découvrez le parcours atypique, introspectif et transformateur de Bérangère qui offre des perspectives inspirantes sur le chemin complexe de l'évolution personnelle et professionnelle. Salut Bérangère.
Salut Laurent.
Ça va, ça me fait plaisir de t'avoir, même si on
se connaît déjà. Depuis un petit moment, du coup. Depuis mes débuts, en fait, je te connais. J'ai eu la chance de te rencontrer à ce moment-là, en fait.
Justement, dis-moi, présente-toi rapidement, qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, où tu vas.
Donc, je suis Bérangère Tabourin, je suis hypnothérapeute. Je me suis formée ça fait bien 9-10 ans, à l'Arche, où tu étais superviseur à ce moment-là. Tu étais le formateur superviseur à l'âge. Donc, comme je dis, j'ai eu la chance de te connaître à ce moment-là parce que j'ai fait partie du quotient dès le départ. Il m'a aidé énormément sur mon activité. Voilà, j'ai suivi, j'ai tout fait. les audios, les vidéos, les podcasts. À l'époque aussi, il y avait des échanges où on posait des questions, des chats et tout. Donc, ça a créé vraiment une communauté. Ça permet vraiment de se sentir moins seul, de comprendre aussi, parce que la connaissance aussi, ça permet de se sentir plus légitime, d'avoir plus confiance en soi. À ce moment-là, je me souviens, peut-être une année après, tu m'avais demandé de faire j'étais honorée déjà à l'époque, de faire un podcast, et c'était sur les croyances limitantes. Où j'avais parlé des croyances limitantes, des praticiens. En tout cas, c'est comme ça que j'avais fonctionné pour vraiment travailler sur moi, sur les peurs qu'on peut avoir par rapport aux croyances limitantes, par rapport au fait de se faire payer, par rapport à la légitimité, par rapport au doute aussi, au perfectionnisme, par rapport à tout ça. Ça m'a permis vraiment de m'installer dans la foulée. Je me suis installée, j'ai trouvé beaucoup ma confiance en moi, ma légitimité au cabinet. Et après, au bout de quelques années, j'ai voulu me lancer dans l'écriture d'un livre. Et là, ça a été à nouveau grosse peur. Je ne m'y attendais pas du tout. Mal de l'imposteur, illégitimité. Et là, beaucoup, beaucoup de peur. Donc depuis, je l'ai laissé de côté, ce livre. Et là, depuis 2 ans, avec mon compagnon, du coup, on monte des programmes d'accompagnement. Alors, nouveau challenge par rapport à ça, des programmes d'accompagnement en ligne par rapport à la vidéo. On découvre l'importance du marketing qui est nécessaire. Autant quand j'ai débuté, ça s'est fait quand même, il y a eu un bouche à oreille, j'avais fait des conférences, j'étais quand même présente sur le net et tout, mais là, je vois que les enjeux sont différents actuellement. Il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes sur le marché. Et que si on ne développe pas sa communication, son marketing, c'est très, très compliqué. Ça fait partie du métier d'accompagnement à part entière.
Du programme en ligne, du coaching et tout ça. Il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins de monde. Moi, quand j'ai commencé, c'était pareil, c'était sur Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Je tapais hypnose Boulogne, on était 2. Aujourd'hui, il doit y en avoir 50, juste sur Boulogne. Donc, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes paramètres. Qu'est-ce qui fait que toi, une question que je pose un peu à tout le monde, même dans les stages, une question que j'aime bien, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es levé un matin et tu te dis, tiens, je vais faire de l'accompagnement, je vais faire de l'hypnose. Qu'est-ce qu'il y a?
Ça a été tout un chemin. j'ai eu la chance. J'étais sur Paris Et j'ai un collègue coach quand je bossais à l'époque au ministère d'écologie, rien à voir avec l'écologie, juste le nom du ministère où j'étais dans la formation, je faisais de l'ingénierie de formation, ce qui m'aide pour le coup aussi dans les programmes d'accompagnement que je suis en train de faire là maintenant. Et il m'avait parlé d'hypnose. Bon, je me suis dit, OK, ça m'était resté. Il y avait un côté un peu magique qui me plaisait là-dedans, un petit peu impalpable, un petit peu, voilà. Et peut-être un an après, ben, je sais pas, j'ai vu passer quelqu'un, c'était Jordan Véro, qui débutait sur Lyon. Et je suis allée faire deux séances avec lui. Alors, ce qui est assez surprenant, et comme quoi c'est, tout est là et ça explique beaucoup de choses, c'est que j'appelle et il me dit « Pourquoi vous voulez venir ?» Et ça m'a surpris, en fait, cette question. Je me suis dit « Waouh, je n'ai pas un numéro, en fait. » C'est pas comme le médecin, t'as mal à la tête, on donne du Doliprane, t'as ça, on donne ça. Et en fait, je me suis vraiment sentie écoutée, entendue. Ça m'a fait énormément de bien, en fait. Et je pense que ça a été ça, ce déclic aussi, cette éthique qu'il y avait derrière, de se dire que chaque personne est unique, chaque personne est différente et que t'es pris vraiment pour qui tu es, quoi. Et je lui dis, bah, je sais pas, je fais du théâtre, bah, pourquoi pas la confiance en soi par rapport à ça. Donc, j'ai fait les séances avec lui. Je me suis dit, il y a un truc qui a bougé, en fait. Ça a bougé un truc en moi. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais il y avait un petit côté, ça avait débloqué quelque chose. Et puis, j'ai gardé ça en tête et je me suis... Alors, j'étais comédienne à l'époque, ça faisait 10 ans et ça ne décollait pas. Il y avait un truc qui n'était pas aligné. Maintenant, je sais pourquoi, parce que c'était pas, il y avait des valeurs qui n'étaient pas alignées par rapport à ce que je suis. Donc, j'ai regardé un peu le coaching, la PNL, Tony Robbins, mais il y avait un truc qui me correspondait pas dans l'énergie. Et puis, je savais pas la formation. Voilà, j'avais déjà fait pas mal d'études. J'avais pas envie de me relancer dans des trucs longs. J'avais même pas regardé combien de temps il fallait pour être hypnothérapeute. Et je suis allée à Paris, c'est ça les synchronicités, je suis allée à Paris à un stage de chiropractie. Je prends le métro pour rentrer sur Lyon. Et là, j'entends parler quelqu'un d'hypnose avec deux stagiaires et de Jordan. Et je me dis, mais c'est... Et après, donc j'y vais. Wow. Alors quand même, le hasard, comme quoi il n'y a pas de hasard, le hasard pour tomber quand même sur quelqu'un qui parle de Jordan et d'hypnose dans les métros parisiens pour y aller. Et du coup, donc deux stagiaires sortent et puis oui. Je vais le voir et je lui dis, mais vous parlez de Jordan Véro ? Il me dit oui. Puis c'est là que j'ai posé la question sur combien de temps, en fait, ça dure la formation d'hypnose. Et c'est là qu'il m'a dit le temps. Et je lui dis, ben bingo, en fait. Les peurs que j'avais et que j'avais laissé ça de côté par rapport à des croyances, je me suis dit, ben c'est ça. Enfin, la synchronicité, elle est trop énorme. Et après, en fait, tout était évident parce que je me suis rendu compte que dans tout ce que je faisais avant, j'étais pas alignée par rapport à mes valeurs. Et là, toutes ces valeurs de bienveillance, d'amour, de partage, d'échange, de tri sur l'autre aussi, le fait d'être en tri sur l'autre, parce que comédien, t'es beaucoup en tri sur toi. C'est un petit côté narcissique avec lequel j'ai un peu de mal. Et du coup, il y a vraiment un côté où tout s'est mis en place en fait par rapport à mon parcours de comédienne aussi, parce que le comédien, tu rentres un peu dans la peau du personnage, c'est-à-dire il y a beaucoup de calibration pour rentrer dans le personnage du comédien. Et du coup, ça m'aide énormément pour mon métier d'accompagnante par rapport à ça. Donc, il y a un côté aussi, j'ai envie de dire, improvisation. En thérapie, tu sais pas avec quoi arrive la personne. Au départ, quand j'ai commencé, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont fait comme ça, qui préparaient leur séance. En fait, je me dis, ah, la personne, elle vient pour ça, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tel protocole, quel truc, machin, je préparais le truc. Et je me suis dit, mais non, en fait, oui, il y a des patterns, il y a des choses qui se retrouvent selon les profils. Notamment, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, donc obligatoirement, je comprends bien le truc, et puis il y a des choses qui se retrouvent, mais chaque personne est différente, et c'est ça qui m'a plu chez Jordan, en fait, et pour faire la formation, justement, je n'ai pas réfléchi 107 ans, je me suis dit, c'est à Paris, tant pis, je vais là-bas, parce que l'éthique et l'énergie qu'ils m'ont envoyée, en fait, ça me convenait.
Ok, mais qu'est-ce qui t'a fait, bon, t'as les synchronicités, etc., mais t'étais au ministère de l'écologie, etc. Et passé à, ok, je vais accompagner des gens, devenir indépendante. Et qu'est-ce qui t'a fait faire le franchir le pas de quitter ton job.
Ouais, alors dans le côté indépendante là à ce moment-là, donc du coup je travaillais plus, j'étais comédienne, mais voilà, comédienne en gare et l'air, mais passionnée, amoureuse de son travail. Déjà il y a le côté indépendante, c'est-à-dire que je me voyais plus retravailler avec un patron. J'avais vraiment ce côté indépendante qui me plaisait. Pour être libre de si j'ai un enfant malade, je peux être là. Pour vraiment pouvoir concilier aussi mon rôle de maman. C'était le côté indépendante m'a jamais fait peur. Des fois, il y en a pour qui c'est compliqué parce qu'en fait, ils se rendent pas compte qu'il y a la solitude de l'indépendant. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas de chef pour nous dire si c'était bien, si c'était mal. Du coup, la supervision avec toi, voilà, il y a vraiment ce qui est essentiel, en fait, parce qu'on a besoin de ça aussi, de quelqu'un aussi qui nous drague, en quelque sorte. Donc, ce côté indépendant, hyper important. Et par rapport au métier d'accompagnante, c'est une question qu'on nous pose en formation. C'est d'aller voir aussi le côté sombre et le côté lumière. C'est-à-dire que... moi, je trouve que le monde, il est dur, il est injuste. Quand je vois un petit enfant qui a un cancer dans le métro, je me dis, mais c'est injuste, pourquoi lui? Alors qu'il y en a, c'est des dictateurs. Et parce que j'ai cette part d'ombre de colère et d'injustice, je me dis que, voilà, dans mon métier, même si c'est une petite goutte d'eau en toute humilité, en fait, les personnes que j'accompagne qui vont mieux, en fait, ça rayonne autour d'elles. Et je me dis, si tout le monde fait ça dans sa vie, le monde serait plus beau. En fait, il y a vraiment ce côté de rendre le monde meilleur aussi. Parce que ça permet aussi de se comprendre, se connaître et d'être mieux aussi avec soi-même. Parce que du coup, voilà, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Quand je suis arrivée en formation, je me suis dit, ça va, c'est bien. En fait, il y a plein de trucs qui ont toujours besoin d'être travaillés, en fait. Et c'est vraiment pour transmettre ça, pour partager ça, pour dire que voilà, on peut être bien dans sa vie, on peut s'autoriser à être mieux, on peut rayonner, on peut sortir d'une dépression, on peut sortir de troubles alimentaires. Vraiment, c'est quelque chose qui m'anime.
Oui, c'est marrant parce que ça revient un peu dans les quelques podcasts là, que j'ai déjà fait. C'est un truc dont moi je parle dans ma conférence pas mal, c'est d'aller chercher la souffrance intérieure, tu parles de colère, d'injustice, etc., qui est souvent un des drives, un truc qui continue qui est plus grand que l'accompagnement qui part de quelque chose d'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose que tu as toujours, ça, aujourd'hui? C'est différent, comment tu l'as dit?
Après, je le vis très bien. C'est pas quelque chose qui est là. C'est incarné, en fait. Donc, du coup, quand je suis en séance, je suis bien. Parce que je sens un peu comme... J'aime pas le côté mission de vie, mais voilà, il y a un peu un côté, ni le côté utile, mais il y a un côté où clairement, ça me fait du bien aussi. C'est-à-dire, si j'avais plus du tout d'accompagnement, ça, il y aurait un truc qui me manquerait, parce qu'il y a quelque chose où à ce côté, je mets des guillemets utiles, cette utilité, ce côté où ça fait du bien aussi de sentir... qu'on peut, je ne vais pas dire sauver le monde, mais une manière de ça, en fait, de dire qu'on peut rendre à chacun, à notre juste niveau, le monde meilleur. Donc ça m'anime toujours, oui.
Oui, le monde, peut-être pas, mais le nôtre...
Voilà, c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais d'humilité, voilà, dans notre petit monde. Déjà, commencer par éduquer ses enfants, c'est déjà chaud. Déjà, quand on le... Voilà, ouais. C'est ça, le petit monde.
Oui, et puis surtout que quand on à la maison, enfin, il y a un monde d'écart entre ce que les gens peuvent écouter et entendre quand on est le thérapeute, ça. Et à la maison, t'es la maman, t'es le papa, on n'est pas prophète en son pays, quoi. Donc, ça rajoute un peu de challenge. Non, c'est juste ce que t'as vécu, toi.
Par rapport aux enfants.
Ouais, je trouve moi que c'est une des difficultés du métier qui fait qu'il y a aussi cette solitude du thérapeute et pas que de l'indépendant. Merci, au revoir ma fille. C'est ce côté où tu peux aider plein de gens autour de toi, des gens que tu connais pas, que t'as jamais vu, et que tu reverras peut-être une fois ou deux, mais pas le reste de ta vie. Mais quand il s'agit du cocon familial, que ce soit les parents, le conjoint, les enfants, c'est toujours délicat. C'est pour ça qu'on n'accompagne pas, on n'est pas le thérapeute de son conjoint, on n'est pas le thérapeute de ses enfants. Moi, j'ai trouvé pendant un moment que c'était pas facile, toi, de... Moi, je fais des co-visions, des supervisions, de la formation. J'arrive, je suis une autorité, les gens m'écoutent. Des fois, oui, Laurent, elle a dit ça. Mais non, il y a d'autres façons de voir, aller voir ailleurs, tu vois. Alors qu'à la maison, c'est pas toujours le cas. Tu vois, ça veut dire, ouais, c'est bon, avec tes trucs de machin, développement perso. Et je trouve que ça fait partie de quelque chose qui n'est pas évident dans la vie quotidienne. Alors, je sais pas.
Il y a pas mal de choses. C'est que, au départ, je faisais des petites. Enfin, j'avais mon grand qui avait besoin, donc je commençais à faire des petites séances sur lui tout en sachant qu'il ne fallait pas que ce soit proche. Et très vite, je me suis rendu compte que oui, son problème, je ne pouvais pas faire partie du problème, clairement. Donc là, j'ai lâché l'affaire par rapport à ça. Mais il y a le côté où. Quand j'ai débuté en tant que thérapeute, j'ai fait gaffe à ne pas être dans la sauveuse. Parce que par rapport à un de mes postes précédents, quand j'avais moins de 30 ans, j'étais dans la sauveuse. Oui. Et pourtant, il n'y avait pas grand-chose à sauver. Mais j'ai fait un burn-out à l'époque. Et je me suis dit, oulala, attention, en thérapie, donc du coup, je ne suis pas du tout dans la sauveuse. Mais par contre, à la maison, c'est la barrière, elle est hyper, hyper compliquée. Parce qu'il y a le côté où, par exemple, si je parle de l'hypersensibilité en thérapie, c'est une force. Et je suis passée par là aussi en me disant, mais cette hypersensibilité, j'en peux plus. Ça, c'est une force en thérapie parce qu'on va ressentir les choses avec les autres. Ça, on va être fine avec ça. Et quand j'arrive à la maison, ben, y a tout ça. Il n'y a plus la barrière du cabinet. C'est-à-dire que l'hypersensibilité, elle est là, mais on veut sauver. En fait, on est impacté, c'est difficile de pas prendre aussi, de dire c'est où ma place, et puis avec le conjoint encore plus compliqué, de pas être dans le rôle de la sauveuse, c'est complexe, c'est pas évident parce qu'on s'en rend pas compte en fait.
Oui. Ouais, moi ça m'a aidé à améliorer ma posture en cabinet, parce qu'en fait je me suis rendu compte que si j'attendais que les autres changent, si j'avais envie que les autres changent, si, comme je pouvais avoir envie avec les enfants, ma femme, etc. Ça, c'est une espèce d'intention que l'autre aille mieux ou qu'il change. Je commençais à faire partie du problème et je me suis rendu compte que c'était pareil en cabinet. Ça, cette pression qu'on peut avoir de la réussite, que l'autre change, que la personne change, surtout dans l'hypnose où il y a ce truc où c'est censé aller vite, etc. En fait, ça m'a aidé à me dire, ok, si cette personne-là, c'était mon conjoint, mes enfants, et que je voulais pas faire partie du problème, quelle posture je prendrais ? Donc c'est un truc qui est un peu, et c'est là que la frontière est fine, c'est détaché mais engagé, tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé dans la pratique, mais c'est des moments qui sont pas forcément faciles. Et pour te faire connaître, développer ton activité, que ce soit aujourd'hui dans le coach, je parlais de marketing tout à l'heure, de communication, ou à l'époque, c'est quoi qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté, qu'est-ce qui t'a aidé, comment t'as dépassé ça?
Au début, il y avait, voilà, où vraiment j'étais sur le... quand je suis arrivée sur Lyon, il y avait Jordan qui était là, puis il y avait qui, je ne sais plus. Il y avait déjà un groupe d'intervenants et Jordan est parti de Lyon. Donc, du coup, il y avait Agnès aussi et Mick. On a monté un groupe d'intervisions sur Lyon. Et c'est là que j'ai eu mes premiers clients. En fait, il y a une personne qui devait venir et puis en fait, qui est partie dans le sud, qui est anesthésiste, hypno. Et du coup, il m'a envoyé quelques-uns de ses clients. Donc, ça a commencé un peu comme ça. Oui. J'étais sur les groupes Facebook Hypnose au départ pour apprendre des choses. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait faire gaffe à qui parler parce qu'en fait, ce n'était pas bon à apprendre. Il fallait avoir parce que les gens répondent qu'en fait, ils ont spécialement juste dans ce qu'ils racontent. Donc, après, j'ai commencé à faire le tri, à voir qui est en train d'écrire, qui parle et qui j'écoute, et puis après à répondre aux questions, pour aussi moi ça me permettait de me questionner. Du coup là aussi il y a quelques personnes des hypnos qui savaient que j'étais sur Lyon, du coup qui m'ont envoyé du monde. J'ai fait des conférences. Voilà, j'étais pas du tout sur le net à me filmer ou quoi que ce soit à ce moment-là. Après la Covid est arrivée. Donc avant la Covid, bah j'étais sur j'avais fait du Google Ads aussi, ça fonctionnait du feu de Dieu à l'époque. Et j'étais super bien référencée. Tu tapais Calvire ou Lyon hypno, j'étais en voyant au début. Là, je n'existe plus depuis la Covid, en fait. Donc, il faut se réinventer par le bouche à oreille, oser demander aussi à ses clients du bouche à oreille, oser demander des avis, se faire connaître différemment.
Des avis, oui.
Et puis là, bah avec les formations en ligne, bah là c'est l'exposition à fond sur les vidéos, sur amener du contenu gratuit pour montrer sa légitimité aussi. Voilà. Après c'est du mailing, c'est des conférences aussi. Faut se montrer. Voilà, il y a vraiment un côté où on est...
Oui, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu disais, bah, je travaillais un peu sur la confiance en moi, etc. Puis quand on t'écoute, on se dit, bah, t'as fait des conférences, tu faisais du réseau, tu postais sur les réseaux, tu répondais aux questions. Il y a plein de gens qu'on n'ose pas faire ça. Et donc, il y a une espèce de...
Ouais,
où tu mets le seuil de confiance, tu vois.
C'est la... Il y a le côté où la confiance, j'ai pas confiance en moi, mais du coup, pour me sentir légitime, bah, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé quand j'ai commencé en tant que thérapeute. Je me suis dit, bah, j'ai pas confiance en moi. J'en voyais en formation qui était super confiant, qu'osait faire des choses. Je me souviens, je sais plus si c'était une idée, mais si vous vous plantez, plantez-vous avec panache. Moi, c'est plus complètement figé. Je veux être parfaite, je veux faire le truc parfait et tout. Et du coup, bah, comme j'avais pas confiance en moi, mon curseur il est plutôt bas, bah, du coup j'ai bossé beaucoup 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 sur plein de choses pour me dire voilà, moi pour me sentir en confiance. Et à un moment donné je me suis dit mais en fait je doute tout le temps, au début ça me figeait un petit peu dans mon métier. Je me suis dit mais en fait le doute il est utile parce que aussi je peux pas être quelqu'un d'hyper confiante, j'y serai jamais, mais ce doute il me sert à avoir une certaine expertise, donc je m'en suis servi. Et pareil en thérapie, c'est oui. que ça m'a aidé comme croyant. Je m'en suis servi comme ma croyance limitante, je m'en suis servi comme une croyance aidante. C'est-à-dire que tu dis, bah, ok, j'ai pas confiance en moi, mais j'ai plus confiance dans les autres pour changer et trouver les solutions, leurs propres solutions et les accompagner là-dedans. Donc du coup, ça m'est vachement en position basse pour le coup. Voilà, je sais pas. J'ai travaillé parce que j'ai cette peur, j'ai ce manque de confiance. Du coup, ça me fait que j'ai travaillé beaucoup. Et là, pour le coup, maintenant, enfin, en cabinet, ça fait un moment que j'ai confiance en moi. Et c'est étonnant parce que du coup, je suis allée me re-challenger sur l'écriture du livre. Je suis allée me re-challenger sur des vidéos que j'arrivais pas à faire. Là, et seulement maintenant que j'arrive à faire des vidéos, en fait, mais c'était très très compliqué. Avec cette blessure du rejet, du coup, de savoir qu'on, voilà, que c'est ma blessure qu'elle est bien bien présente et que la vidéo, c'est, il n'y a rien de pire, quoi. Et en tant que comédienne, je galérais. Enfin, je suis allée affronter mes peurs. En fait, je ne supporte pas que mes peurs dirigent ma vie. Donc, j'y vais. Comme comédienne, on se dit, mais pourquoi tu es allée là-dedans, toi, qui a peur de la lumière, du coup. Pourquoi tu y vas? Ouais, mais en fait, je ne sais pas. J'affronte mes peurs parce que sinon c'est elle qui dirige ma vie. Donc,
je peux dire ça dans Expert du changement. D'ailleurs, si on veut travailler ses peurs, c'est de réussir à s'ancrer que la pire des peurs, c'est d'être contrôlé par ses peurs. Parce que ce que tu viens de dire, qu'il y a un truc. Il y a un monde entre le dire et le vivre. Mais je trouve que c'est un bon guide, un bon rappel, tu vois, qui est pas mal. Moi, je fonctionne comme toi sur le doute. Moi, tout le temps.
Ce qui est étonnant aussi, pour le coup, tu vois.
Pas toujours, mais... ouais, mais c'est pareil. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu, énormément travaillé. Moi, j'ai un mécanisme qui est particulier. J'en parle là parce que c'est je doute beaucoup, Mais pour me faire douter, il faut être solide en face. Tu vois, et donc, il faut pouvoir passer l'argumentaire. Tu parlais de Jordan tout à l'heure, on discute souvent avec Jordan. On a parlé pendant des heures et des heures sur Facebook à couper les cheveux en quatre. Et même avec Antoine Garnier, avec d'autres personnes à l'époque qui étaient plus formateurs, etc. Pour remettre en question ce à quoi je croyais, il faut qu'en face, j'ai quelqu'un qui ait de l'argument. Tu vois. Donc, mais sinon, je doute énormément et ça se voit peut-être pas de loin, en tout cas dans les vidéos, dans les podcasts. Mais je pense que c'est un gros moteur. Et le fond de tout ça, bon, je parle un peu tout seul, mais c'est dans ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu parlais de la colère, de l'injustice, c'est que tu incarnes, enfin, au sens, moi j'appelle ça embrasser, j'allais dire intégrer, tu vois, les défauts pour en faire des forces. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu dis, j'ai fait de ma croyance limitante une force. Et je pense qu'il y a trop de gens qui essayent de s'en débarrasser de leurs limites et de qui ils sont. Et c'est pour ça que ça bloque et que ça marche pas. Je sais pas ce que t'en penses.
Ah ouais, bah c'est ce que je croyais aussi. À un moment donné, j'ai travaillé sur la blessure du rejet et je voulais m'en débarrasser. Je croyais ça, en fait. Je me dis, j'en veux plus. Comme hypersensibilité, j'en veux plus. Ça me saoule. C'est compliqué, etc. Mais on peut pas, et je me suis rendu compte, en fait, que je suis allée voir qu'est-ce qu'il y a de beau derrière cette blessure de rejet. C'est d'ailleurs une question que je pose en séance, que ce soit quelqu'un qui soit dans la blessure d'abandon, enfin, quand je travaille sur ces blessures-là. Parce qu'il y a des choses de belles aussi, il y a des valeurs derrière. Et en fait, on peut pas changer, on peut pas virer complètement sa blessure du rejet, mais on peut en faire une force et, il y a toujours une empreinte, même si ce n'est plus vraiment là, mais on peut en faire une force et aller voir aussi ce qu'il y a derrière. Parce que je me suis rendu compte que si j'enlevais, si elle n'existait plus du tout, ben, il y a des valeurs derrière. Et ça serait comme enlever de mon identité, en fait. Donc c'est plutôt aller, voilà, comme tu dis, embrasser les choses, aller voir ce qu'il y a. Voilà, c'est ombre et lumière. Il y a les deux qui s'imbriquent, en fait. Donc c'est qu'est-ce que j'en fais derrière ? Comme des personnes, voilà, on n'est pas thérapeute par hasard. C'est qu'il y a des choses, il y a des histoires de vie aussi derrière, et que ces histoires de vie, en fait, ça doit être des forces pour avancer. C'est pas c'est comme si on virait tout notre passé, toutes nos histoires, tous nos problématiques, et qu'on voulait être neutre et magnifique. Non, c'est pas possible parce qu'on a nos blessures aussi. Et au contraire, c'est ces blessures de thérapeute qui font que il y a des personnes elles vont venir vers nous parce que ça va résonner avec elles. On est humain, en fait.
Ouais. Ouais, c'est pas toujours facile à faire. Et puis, je pense que ça évolue aussi en fonction du contexte. Et comme tu dis, là, dans le cabinet maintenant, t'as fait beaucoup de séances, ça fait longtemps que tu pratiques, donc forcément, t'as la confiance. Après, là, t'as l'écriture du bouquin, t'as les vidéos. Enfin, tu vois, ce sont des seuils à chaque nouveau projet ou envie ou truc comme ça. On peut se retrouver confronté aux mêmes limites. Mais après, c'est peut-être... la pratique, le truc, je sais pas, par exemple sur le bouquin, qu'est-ce qui te bloque?
Alors là, j'ai... Enfin,
c'est ouais, parce que moi, disons que je parle d'écrire.
Ouais, c'est ça, mais c'est ça qui est étonnant aussi. T'écris plein de choses, on dirait, quand est-ce qu'il sort ton livre? Voilà, c'est, en fait, j'ai été surprise.
Juste pour le contexte, peut-être que ça, juste pour le contexte, ceux qui ne me connaissent pas, moi, je dois avoir 18 000 posts sur le groupe Hypnose. J'ai dû écrire l'année dernière, j'ai écrit 190 articles avec ceux d'Hypnoscient, les podcasts. J'ai tout cumulé, j'ai 470 pages d'écriture, plus les formations, les programmes et tout ça. Mais les bouquins, c'est compliqué.
Il y a des choses.
J'ai mes raisons. Ce qui m'intéresse, ça, c'est plus les tiennes. C'est comment tu vis ça?
Ça faisait peut-être que 2 ans, entre guillemets, que j'étais installée, genre je me suis dit, j'avais déjà beaucoup écrit avant, j'ai écrit une pièce de théâtre, quand j'étais comédienne, des scénarios, je me suis formée au scénario, j'ai fait partie de groupes de lecture de scénarios, j'ai fait des formations, et je me suis dit, je veux écrire sur tout ce que j'ai appris, en fait, pour le transmettre. Un petit peu comme toi, voilà, c'est toi qui m'a énormément aidée parce que tu m'as fait gagner du temps par rapport à toutes tes connaissances. Et je me dis, bah, tout ce que j'ai compris, en fait, j'ai envie de le transmettre pour faire gagner du temps aux autres. Et d'ailleurs, quand tu me disais, on écrit toujours un livre pour quelqu'un, c'était toi. Le côté, j'écris pour Laurent Bertin en me disant, voilà, pour avoir vraiment cette finesse des choses et me dire, on va voir s'il va douter de ça ou pas. Enfin, voilà, c'est important aussi de savoir pour qui on l'écrit. Et ça challenge. Et je me suis dit, bah, pour une fois, je ne vais pas le laisser sur mon ordinateur, ce livre. Je me suis engagée. J'ai la valeur engagement forte, beaucoup, engagée à le, je sais pas, à le faire publier ou à le mettre quelque part, en tout cas, à le mettre en lumière. Et là, ça a été autre chose. Là, une grosse, grosse peur, alors manque de légitimité, parce que je me dis, bah, qui je suis pour écrire ça? J'ai fait des formations, mais voilà, j'ai fait des études en environnement, j'ai fait un bac plus 6. Là, j'ai un bagage, je peux dire, ouais, j'ai un bac plus 6 pour travailler là-dedans, mais j'ai pas vraiment de formation, qui je suis pour écrire ça. Donc, j'ai été vraiment confrontée encore plus que quand je me suis installée au cabinet, au masque de l'imposteur et à l'illégitimité. Et à la peur de réussir, plus qu'à la peur de l'échec, parce que la peur de l'échec, je connais bien. Et souvent, c'est intéressant d'aller voir l'autre côté de la pièce, parce que c'est vraiment la peur de réussir qui est derrière, la peur de se mettre en lumière. Et quand je relis, parce que du coup, ça fait un moment qu'il est en stand-by, parce que je suis passée sur autre chose, quand je relis, je me dis, putain, avec peu de pratique, j'écrivais déjà ça. C'est comme si c'était une autre personne, tu vois, qui l'avait écrite. Donc, il y a vraiment ce truc-là, se dire, mais en fait, voilà, qui je suis pour écrire ça pas dans le sens que ça ne va pas être intéressant, mais c'est pas comme si je suis très dissociée par rapport à ça. Puis voilà, ouais, je pense qu'il y a une grosse peur de la lumière. Je te disais, le métier de comédien, en fait, qui me faisait plus peur, c'est la lumière. C'est assez étonnant quand j'en parle, parce qu'il y a des personnes qui recherchent ça, mais c'est ce qui me fait peur. Et d'un autre côté, c'est peut-être cette envie d'y aller aussi, quoi. Et j'ai procrastiné, mais alors là...
Quelle différence tu fais entre...
Ouais, j'ai procrastiné, mais comme jamais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu confinement et je me suis dit, il n'y a plus d'excuses. J'ai le temps, bon, il fallait s'occuper quand même des enfants, les devoirs, le ceci, cela, mais je me dis, j'ai quand même du temps, j'ai plus l'excuse de j'ai un texte de théâtre à apprendre, j'ai plus le cabinet. Et là, mais c'est incroyable. Sur la journée, bon, je mangeais une tablette de chocolat par jour, mais à chaque fois, il y a toujours un truc, c'est impressionnant comment le cerveau, il fuit le truc. Et après, je m'en veux maintenant parce que je me dis, j'avais le temps pour le faire, je n'ai pas fait.
J'ai l'impression qu'il y a différentes lumières. C'est un sujet qui m'intéresse. Moi, pareil, la peur de lumière, c'est un truc qu'on parle beaucoup. Mais quand je dis ça, des fois, les gens ne comprennent pas. Parce que je fais des podcasts, je fais des vidéos, je fais de la formation. Mais c'est un peu comme toi. C'est pas un truc que j'aime. Et forcément, bah si. Forcément, on y trouve quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas... Si là tu fais des vidéos, tu as un cabinet, tu fais du théâtre, c'est une forme de lumière. C'est quoi la différence avec le bouquin, par exemple?
Le bouquin, il y a un truc que tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire, il y a le côté. C'est con ce que je vais dire, ça paraît contradictoire, parce que tu as écrit pour que ça soit lu, mais il y a un côté où je suis en cabinet, je sais. Je sais que je suis avec une personne, je suis au théâtre, je sais qu'il y a peut-être 250 personnes. Là, le livre, je ne sais pas par qui il va être lu. Il y a cette espèce de peur, je ne sais pas où serait le palier, de me dire, mais oh, si c'est lu par plein de personnes. C'est, voilà, c'est ouais, une espèce de laisser les choses, peut-être de contrôle de cette lumière-là, de l'impact que ça peut avoir sur les autres, et ça fait peur, je ne sais pas. Que ce soit beaucoup lu, en fait.
Oui, il y a peut-être un truc dans le livre qui est gravé et tu peux pas. Moi, je sais que j'ai pas de problème à écrire un article parce que je sais que si j'ai des commentaires qui me disent ah oui, t'as pas parlé de ça, moi je suis pas d'accord avec ça, je peux répondre le lendemain dans un autre, tu vois. Et un bouquin, c'est compliqué. Il n'y a pas l'interaction pour expliquer ce que t'as voulu dire, le redire autrement, te faire comprendre.
Ouais, peut-être le côté.
Quand tu parles de ça, je me rends compte que moi, j'avais mis le doigt plus là-dessus, c'est pas tellement l'écriture, c'est qu'est-ce que tu peux pas répondre au bouquin, là, tu peux faire plusieurs éditions, mais c'est plus le s'adapter à qui le lit. Sauf que le bouquin, comme tu dis, tu sais pas qui c'est qui va le lire. Ouais, bref, je suis pas sûr que
ouais,
ce
y a
soit
peut-être
le
un côté
problème.
perfectionnisme aussi. Enfin, voilà, c'est le... je sais pas. Enfin, il y a des trucs... je ne sais pas ce qui traînaille derrière, mais...
Après, quand je dis souvent, c'est savoir pour qui t'écris. Bon, pas que tu me cites moi, mais c'est plus à quel public tu écris, toi.
Ouais.
Parce que c'est pour qui t'écris, je pense que le
Ouais.
critère est important. Si tu écris à des gens comme toi, il y a 10, 15 ans, qui ne connaissaient pas ça du tout, qui avaient des comportements alimentaires, d'autres problèmes, etc. Tu écris à des gens qui n'y connaissent rien.
Ouais.
Et c'est ça ton public. Si tu dans ta tête, t'écris à moi, qui ai déjà lu plein de bouquins, on a fait des commissions, des trucs ensemble, et donc tu te mets un seuil qui est, je suis
Non,
probablement pas
ouais.
dans ton
Alors, quand
public, tu
je
vois.
parlais
Après, donc,
d'écrire pour toi, tu
attention à cette
l'avais.
nuance.
C'est pas écrire, c'est pas un livre pour toi. Mais je me pose toujours, tu vois, c'est comme s'il y avait ta petite voix d'exigence. L'exigence que tu as sur toi, j'ai la même sur moi.
Oui, c'était
Ah
ton
ouais,
problème.
ben voilà, on va peut-être le même problème. Mais voilà, c'est plus parce
Oui,
que
mais
c'est pas pour toi, tu vois, le livre est pas, t'es pas le public.
Oui, bah moi,
Voilà,
c'est mon
mais
problème.
t'es plus cette exigence-là. Ouais.
J'ai un niveau d'exigence qui est.
Donc j'ai plus ce
Et
niveau d'exigence.
c'est le paradoxe, c'est la dualité. C'est que. Moi, je suis fasciné par des gens. J'ai des potes qui font des stages, des formations. C'est les premiers ou deuxièmes. Je leur dis alors comment c'est passé. Ils me disent ah, c'était génial, les gens, ils ont adoré. Ça me fascine, ça. Moi, ça fait. Je fais un stage, je suis déménagement intérieur il n'y a pas longtemps, là. Ça doit être la 10e fois que je le fais. On me dit alors comment c'est passé. Je dis bah, je sais pas, faut voir. J'espère que les stagiaires, ça leur a plu. Et des trucs, j'ai l'impression qu'ils sont regardés. J'ai une liste longue comme le bras de trucs à améliorer, tu vois. Et donc, c'est chiant, mais en même temps, c'est une force. Mais c'est vrai que pour l'écriture du livre, voilà, on parle de l'écriture du livre, mais je pense qu'il y a plein de gens qui débutent dans la pratique et qui ont ce problème. Ça, c'est le. En fait, notre illégitimité, notre manque de confiance, souvent, il vient de ce qu'on aimerait être plus tard. Et c'est un peu le problème de travailler sur la vision. Toi, si tu te vois, par exemple, thérapeute avec un cabinet qui tourne et les gens qui changent et que tu les aides à changer, qui vont aussi changer la vie des gens autour d'eux, etc. Mais que tu débutes, tu peux pas être là tout de suite. Forcément, tu débutes. Sauf que, donc on se compare à notre futur. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de se comparer à là où on est maintenant et là où on était hier. Et donc le fond du problème, c'est souvent cette comparaison qui est saine, mais qui est. Alors que les gens disent qu'il faut arrêter de se comparer. Non, non, il faut savoir à qui et à quoi tu te compares. Et je pense que le mieux, c'est de se comparer à ce qu'on était la veille, avant. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est bien d'avoir des projets, des objectifs, des visions, de savoir qui on a envie de devenir, etc. Mais si ça devient le truc qui t'empêche de passer à l'action parce qu'on n'est pas assez. On est trop exigeant par rapport à ce qu'on veut devenir. En fait, le problème, c'est les valeurs qui sont derrière. Tu
Ouais,
vois ce
bah
que
quand
je veux
j'étais en formation, en fait, j'ai pris une claque
dire?
par
C'est un
rapport
sujet
à
qui
ça.
touche tout le monde.
C'est que je me disais, ouais, mais en fait, en gros, bah, faut que je sois comme le formateur, sinon je suis nulle, quoi. Et c'est dur, du coup, parce qu'il y a un niveau alors pour le coup, j'appelais ça de perfectionniste, en fait, il faut que je sois parfaite comme lui, sinon ça va pas. Et après, j'ai compris qu'en fait, de toute façon, je ne pouvais pas être lui, je ne voulais pas être lui. Parce que après, j'ai appris dans mon université tout ça que c'est pas ce que je voulais. Et le côté perfectionniste, alors pour le coup, ça fonctionne sur moi, c'est que j'étais vraiment dans ce côté perfectionniste. Et le mot exigence me convient bien. C'est-à-dire que je suis exigeante, mais je cherche pas la perfection parce que la perfection n'existe pas. Donc j'ai cette exigence-là, mais à un moment donné, l'exigence de alors qu'avant c'était je me compare et je veux être comme ça et si je suis pas comme ça je suis nulle quoi. Et ça rejoint un petit peu ce que tu dis, c'est que je suis exigeante mais pas à pas là où j'en suis. Je reconnais. Alors c'est vrai que c'est difficile d'aller voir ce qu'on était avant, mais voilà, c'est je l'exigence, ça prend de la patience, ça prend à évoluer petit à petit. Apprendre à. Aussi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, je sais plus qui c'est qui la disait, on surestime ce qu'on est capable de faire à court terme, terme et on sous-estime ce qu'on est capable de faire à long terme. Souvent, on va en faire trop, en fait. Et je me suis rendu compte de ça, c'est que je pensais pouvoir faire plus en une journée aussi, parce qu'on imagine qu'on veut être comme ça, surtout quand on débute, c'est je veux être comme ça, il y a cette exigence-là. Et en fait, non, c'est tourner en humilité, c'est-à-dire j'avance petit à petit et il y a un chemin, en fait. Et j'évolue aussi en se connaissant, ben, du coup, je vais évoluer d'une certaine manière, mais c'est comme le livre, c'est qu'il y a le côté je veux arriver là. Et mais je fais rien. Et non, c'est et du coup dans la journée j'ai l'impression que je fais rien. Mais c'est des petits pas en fait, petit à petit que j'avance. Et puis c'est accepter que ça change aussi. C'est être dans la patience. C'est être dans l'évolution. Quoi, c'est pas une fin en soi.
Ouais, ouais, c'est elle est bien cette phrase, parce que c'est vrai que quand on est dans la pratique, quand on débute, tu sors de formation, tu peux avoir 50 protocoles, machin, les trucs, des questionnements, t'as une charge mentale importante. Et c'est pour ça que je dis souvent, il faut choisir un protocole ou une induction, faire toujours le même jusqu'à ce que ce soit automatique, tu vois. Et après, on passe à autre chose. Mais si tu veux tout faire en même temps, c'est, tu dis, c'est, on surestime à court terme ce qu'on est capable de faire. Alors que si on en fait un par semaine à fond, bah, dans quelques années, puis il les fait tous bien, tu vois. Et donc, c'est une phrase qui est sympa.
Ouais,
noter dans un coin, celle-là.
Ouais, ça m'a...
Je sais pas ce qu'il a dit, je l'avais lu quelque part aussi.
Il y a un an à peu près, je me suis dit, ah ouais, cool. Parce qu'à chaque fois, il y a des mécanismes qui reviennent. Hein. Et puis quand il y a les enfants, plus voilà, plein de choses, toutes les problématiques qu'on peut avoir dans la vie aussi. Enfin voilà, c'est à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Voilà, et l'accepter. Mais c'est en faire un petit peu tous les jours.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui débute, qui a envie de se lancer, devenir hypno, thérapeute, énergéticien, enfin, accompagnant, quoi?
Bah vraiment d'apprendre à se connaître, voilà, se connecter vraiment à son pourquoi fort, en fait, voilà, le pourquoi fort que j'ai cité tout à l'heure. Par rapport au monde que je trouve injuste, etc. Et mon pourquoi fort, il est là derrière, en fait, de ne pas éviter d'aller voir sa part d'ombre pour aller vraiment se reconnecter à son pourquoi fort, d'accepter de faire aussi tes blessures une force, de se dire qu'on... et ça, je me suis dit aussi qu'on vient... Parce que quand je suis arrivée, je me suis dit, mais je ne connais rien, thérapie, accompagnement, alors qu'il y en a qui connaissent, d'accepter aussi qu'on ne vient pas de rien, qu'on a plein de qualités, qu'on n'est pas là par hasard. Et puis, y aller petit pas par petit pas, d'être exigeant envers soi-même, mais voilà, d'accepter aussi, et ça, les échecs qui sont des apprentissages, parce que ça fait partie du truc aussi. La différence entre le fantasme et le rêve aussi, ça m'a beaucoup aidé, notamment dernièrement. Le fantasme qui va être, j'imagine, que tout est beau, tout est rose, tout est magnifique, mais non, mon rêve, c'est ça. Mais derrière, il y a aussi des, comme tout le monde, des échecs. Ceux qui grandissent, on imagine une courbe qui monte, mais en fait, il y a des échecs. Et c'est dans les échecs qu'on apprend aussi. Donc, il y a toutes ces données-là. Mais de suivre son rêve. Enfin, voilà, il y a le côté, comme dans le livre, il y a une espèce de truc qui m'a animée. Et après, il y a eu plein de peurs, mais c'est de dire que c'est normal, en fait. Mais c'est toujours réécouter cette petite flamme intérieure, cette envie, parce qu'elle est là. Et après, c'est normal qu'il y ait des peurs. Et c'est aller les voir les unes après les autres et travailler dessus. Mais c'est que si tu doutes de se dire est-ce que je suis bien, où je dois être, etc., bah, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est, je ne veux pas avoir de regrets dans la vie. Donc j'aurais envie de leur dire plutôt que de. Il y en a, ça fait 2 ans, 3 ans, 10 ans, ils n'osent pas, qui ne font pas, qui sont formés, qui ne se lancent pas. Mais à un moment donné, ils vont regretter parce qu'ils ont plein de peur. Mais s'ils n'expérimentent pas, ils ne peuvent pas savoir aussi. Si c'est bon ou pas pour eux, si ça leur convient ou pas. Il y en a, ils vont pas supporter, par exemple, d'être isolés ou pas avoir cette sécurité aussi, hein, de l'emploi. Donc, mais le truc, c'est que, comme quand je me suis lancée en tant que comédienne, j'avais pas envie d'avoir de regrets, de m'imaginer que j'aurais pu avoir une super réussite et que ça aurait pu fonctionner à ce côté-là. Et d'ailleurs, j'ai gardé des spectacles de fin d'année, c'est génial. Mais voilà, c'est vraiment, allez-y. Parce que moins vous y allez, plus vous allez manquer de confiance en vous. Parce que du coup, c'est l'action qui permet d'avoir confiance en soi aussi. Et surtout, pour ne pas avoir de regrets, quoi. Et après, voilà, c'est dans 2 ans, peut-être que ça ne fonctionnera pas. OK, mais vous saurez pourquoi, peut-être que ça ne vous convient pas, etc. Et dans 10 ans, si t'es encore là, de dire « Ah putain, je veux faire ça, je veux faire ça », c'est ça te bouffe de l'intérieur, en fait. Faut y aller, quoi. Tu après...
Ouais. Les regrets, vaste sujet. Bon, on va arriver un peu à la fin du podcast. Je pourrais te poser plein de questions sur le lien que tu peux faire entre, comme tu parlais tout à l'heure, d'avoir fait du scénario, t'es comédienne, donc j'imagine que tu as travaillé le jeu de l'acteur, etc. Et j'ai écrit un article là-dessus, je crois. J'aime beaucoup le storytelling, la construction de personnages, et je pense que les très bons scénaristes, les très bons écrivains sont d'excellents, pas thérapeutes, mais ils connaissent très très bien l'humain. Et je trouve que c'est vachement aidant. Perso, j'ai appris plus de l'humain dans les bouquins d'écriture, de storytelling et de scénario, et un peu de marketing. Pareil, il faut connaître l'humain pour savoir que dans les bouquins de psychologie. Mais est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a aidé? Est-ce que tu t'en sers?
Totalement, parce que ça permet de... Quand on rentre dans la peau d'un personnage, on vit de l'intérieur. C'est-à-dire, notre posture, elle n'est pas la même, la voix, elle n'est pas la même, les intonations ne sont pas la même. Les mêmes, et du coup, voilà, quand j'ai une personne en face, je vois, j'arrive à calibrer si c'est congruent, si ça ne l'est pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, je suis sur un projet. C'est un réalisateur qui m'a contacté parce qu'on lui avait demandé de nous faire une vidéo. Et du coup, ce projet-là, et ça me passionne parce que je sens que ça va m'apprendre encore plus aussi par rapport à la thérapie et aux comédiens, c'est que les réalisateurs, ils s'associent avec une psychologue, ils voulaient la partie hypnose pour en fait créer quelque chose, des ateliers pour les comédiens professionnels, parce que tout est lié en fait. Et ça aide énormément de voir, de comprendre la psychologie. Au début, elle voulait expliquer le DSM-5, donc c'est dépendant affectif, pervers narcissique, etc. Comment tu te sers dans ton personnage de ces troubles-là. Elle voulait prendre Dr House comme exemple par rapport à ses troubles et comment, en fait, dans son personnage, il s'en sert et comment il incarne les choses, en fait. Et le cinéma, les films, c'est génial pour ça aussi. C'est-à-dire que pendant 10 ans, je regardais, et puis je regarde toujours avec cet œil-là, quoi. C'est la psychologie du personnage, c'est passionnant. Ça apprend énormément.
Ouais, c'est sûr. J'aurais plein d'autres questions à poser, mais j'essaie de garder le timing. Ouais. Peut-être qu'on fera un autre épisode, mais je pose une question souvent dans les podcasts, et peut-être déjà un peu évoquée, mais c'est pas grave, je pose quand même. Et si tu pouvais avoir un gigantesque panneau d'affichage, n'importe où, avec n'importe quoi écrit dessus, il y aurait quoi dessus et pourquoi?
Alors là, tu me demandes d'être visible, d'accord? Je mettrais... le premier truc qui me vient, c'est liberté. Liberté, amour, oser.
Oui.
Oser être soi. C'est pas évident. Voilà, vraiment des mots comme ça, quoi. Lâcher prise, ça veut dire beaucoup de choses. Ça, voilà, faut,
soyez oui, pourquoi?
Ouais, c'est lâcher prise dans le sens oser être soi, quoi. Oser être soi, lâcher son passé, voilà, lâcher prise, on peut écrire. C'est pour ça que je dis lâcher prise. Peut-être parce que chacun va interpréter comme il veut. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On pourrait écrire un livre juste sur qu'est-ce que le lâcher prise. Mais voilà, c'est au théâtre, justement, on me disait, hein, je me souviens, on me disait lâche prise, mais on ne sait pas comment faire. Donc, il faut déjà nous apprendre ce que c'est de le vivre, en fait, et de le définir. Et voilà, ça serait liberté, ou d'être vous-même.
Je la trouve sympa, cette question, parce que... Ouais, pardon. Je la trouve sympa, cette question, parce qu'elle donne des idées de bouquins, comme tu dis. Et forcément, tu es obligé de raccourcir... Quand tu dis lâcher prise, derrière, ça veut dire un milliard de trucs. Pour toi, il y a plein de sujets autour de ça. Le comment on fait, bah oui, c'est pas si simple. Et puis les biais autour du lâcher prise. Et je trouve que ça résume vite fait la philosophie de vie d'une personne. Et puis, puis des fois, ça peut donner des idées, comme tu dis, hein, pour écrire un bouquin.
Moi,
rien n'est grave, tout est important. Ouais. Et ça, il me faudrait 200 pages, d'ailleurs. Et en fait, en disant ça, je me dis, tiens, pourquoi pas réfléchir comme ça quand il s'agit d'écrire ou de poster ou de faire une vidéo, peu importe, se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de dire qui est important, qui tient en une petite phrase. Et après, on dit, oui, mais il faut que je l'explique, cette phrase, parce que lâcher prise tout seul, ça ne veut rien dire. Et puis, tu vois, il y a ton niveau d'exigence et de connaissance qui vient, qui rentre en jeu. Tu dis, oui, mais là, si tu dis ça, il faut que j'explique ça avec ça, avec ça. Et puis, en fait, ça s'écrit tout seul. Et donc, c'est pas con comme idée. Je vais utiliser ça, tiens. Sur ce, on va arrêter là. Je te laisse, si tu as envie de dire un truc pour terminer ce podcast. Moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir.
Ouais, cool. Moi aussi, là, merci beaucoup.
Si tu as envie de finir ou dire un truc à ceux qui nous écoutent.
Ouais. Bah, osez vivre la vie qui vous fait rêver. Voilà. La vie est trop courte. Profitez-en. Ne passez pas à côté de vos rêves, quels qu'ils soient.
Ça marche. Bah, écoute, Bérangère, je te remercie beaucoup. Je mettrai en description le lien où on peut trouver ce que tu fais sur ce que tu fais en ce moment, puis l'accompagnement, etc. Donc, pour ceux que ça intéresse, de rentrer, discuter avec Bérangère ou de la voir et de savoir un peu ce qu'elle fait, il suffit de regarder la description du podcast. Merci à tous d'avoir écouté. Merci Bérangère et bisous à tous.
Bisous.